Maintenant. Où on va maintenant?
J'en sais rien, tu nous emmerdes.
N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va, comme ça. Simple curiosité.
Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors...
Te fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se bider. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un.
On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Pourquoi pas?
Les routes musicales sur Couleur FM.
Bonjour. Du fait de l'éparpillement de son territoire métropolitain et ultramarin, la France se situe au carrefour de plusieurs influences climatiques. Elle présente donc une très grande diversité de milieux, espaces relativement homogènes, marqués par une combinaison de caractéristiques naturelles, le plus souvent modifiées par l'homme. Ces milieux sont valorisés par les hommes, c'est-à-dire qu'ils y réalisent des aménagements, ils mettent en valeur le territoire au profit d'une population, mais ces aménagements génèrent ou aggravent des risques et des dégradations environnementales. Aujourd'hui, ces politiques d'aménagement sont inspirées par le développement durable. On cherche à ménager, c'est-à-dire à protéger le milieu, tout en continuant à le valoriser ou à l'exploiter sans générer de nouveaux risques et en limitant les dégradations de ces milieux. Pour ce nouveau numéro des routes musicales, nous prenons ensemble la route des milieux montagnards français et de l'impact du changement climatique sur le tourisme hivernal. Alors, ces montagnes, ça couvre 20% du territoire national. La montagne a longtemps été un milieu très hostile et fortement touché au XIXe siècle par l'exode rural. Or, aujourd'hui, l'étagement, le milieu naturel et les contraintes climatiques sont devenus des atouts pour le tourisme de masse. Alors, cet environnement attire les touristes, été comme hiver, avec une plus forte pression hivernale. On a créé des stations de ski avec pistes et remontées mécaniques et qui dénaturent très rapidement les sites lorsque la neige fond, donc en été. Or, ce lieu aujourd'hui n'a jamais été aussi fragile. Le changement climatique rebalance les cartes. Le rêve blanc commence à s'estomper. Cet univers touristique a toujours été basé sur, essentiellement, depuis les années 50, nous y reviendrons, sur les sports d'hiver. Et le géographe M. Knafou nous dit que, aujourd'hui, c'est un modèle qui est totalement épuisé. Des adaptations sont aujourd'hui nécessaires. Le modèle actuel se caractérise par une standardisation de l'offre, une spécialisation saisonnière, une dépendance vis-à-vis du marché immobilier, une banalisation paysagère, et tout cela atteint des limites en matière de durabilité. Il est temps que d'autres modèles plus souples, diversifiés, créatifs et soutenables soient de mise pour les montagnes aujourd'hui en 2016. Alors commençons un petit peu cette route musicale avec la première question. Pourquoi ces montagnes sont particulièrement sensibles au réchauffement climatique? Eh bien, le relief de la montagne participe à la fragmentation des massifs en différentes zones climatiques. En effet, il y a un déplacement des masses d'air dans les vallées, eh bien, qui favorise l'apparition de microclimats. Les massifs de montagne jouent donc le plus souvent un rôle de frontière climatique. Donc, ainsi, par leur localisation et surtout par exemple les Alpes, au cœur du continent européen, se trouvent à la frontière de divers climats océaniques, méditerranéens ou continentaux. Alors les études montrent, les dernières études qui datent essentiellement de 2006, malgré une actualité sur le réchauffement climatique en 2015-2016, alors ces études montrent que les montagnes subissent le changement climatique de manière accrue, et cela par rapport à une tendance moyenne du réchauffement mondial. Alors, prenons un exemple, et nous allons nous arrêter essentiellement sur cette émission que sur les Alpes. Les Alpes, l'étude de 2006 montre que les fluctuations des températures suivent celles des moyennes globales, avec une plus forte amplitude, surtout sur la fin de ce siècle, c'est-à-dire de 1,5 degré en plus, hein, c'est-à-dire deux fois plus que le réchauffement mondial, qui est lui estimé à 0,6. Alors ce réchauffement climatique, il est certain. Alors quels sont ses impacts sur l'environnement montagnard? Eh bien, ces effets sont déjà visibles, puisque nous avons une augmentation dans les montagnes de Savoie entre 1950 et 2007 qui a été augmentée de 1,6 degré. Donc d'une manière générale, ce réchauffement, eh bien, va se traduire par un décalage, hein, bien sûr vers le haut. Et donc, il y aura un impact sur sa végétation. Alors, il est clair que jusqu'aux 900 mètres, c'est, on va dire, les collines, montagnards entre 900 et 1600 mètres, subalpins entre 1600 et 2300 mètres, alpins entre 2300 et 3000 mètres, et puis nival, ce qu'on appelle nival, au-dessus de 3000 mètres. Et donc ça, c'est l'étage, un peu de notion géographique dans cette émission aujourd'hui, mais surtout c'est l'ensemble des écosystèmes qui vont évoluer. Plus les températures vont augmenter, plus l'écosystème va être modifié suivant l'altitude. Et donc les écosystèmes de montagne, eh bien, vont se mouvoir vers le haut. Et donc, de même que les populations animales et végétales qui vont se déplacer vers le nord en suivant les saisons, eh bien là, la végétation et les animaux vont se déplacer plus haut suivant ce changement climatique. Alors, il faut savoir que dans les montagnes spécialement, les différentes espèces de faune et de flore en montagne sont très spécialisées. On appelle ça des niches écologiques. Et donc, c'est pas forcément très mobile. Donc, s'il y a un réchauffement climatique à un certain étagement, eh bien, c'est la survie de certaines espèces florales ou animales qui en dépendent. Donc d'autant plus que le changement climatique, lui, eh bien, favorise l'apparition d'espèces invasives, qui sont plus concurrentielles, qui résistent beaucoup mieux au changement climatique. Et donc, elles se répandent aux dépens des espèces autochtones, qui sont, elles, adaptées aux conditions actuelles des écosystèmes montagnards. Alors, ça, c'était la partie sur les conséquences sur la population animale et végétale. Mais regardons un petit peu de plus près, avant qu'on zoome sur le tourisme, sur l'agriculture de montagne et le pastoralisme. Eh bien, ce changement climatique aura lui aussi des conséquences négatives. En effet, l'augmentation des températures, puis l'ensoleillement, eh bien, va avoir pour conséquence une augmentation d'une biomasse végétale. C'est-à-dire, on va avoir un allongement de la période végétative à la belle saison, ce qui se passe un tout petit peu pour ce mois de janvier et février. À cela, vous ajoutez une période de sécheresse qui sera plus longue et plus marquée. Donc, pour les agriculteurs, quelle est la conséquence? Eh bien, une quantité de fourrage moins disponible, eh bien, par exemple, dans la région du Beaufort. Et puis ces hausses de température en montagne impliquent évidemment une diminution du couvert neigeux et donc moins de chutes de neige ou alors une fonte beaucoup plus accélérée. Et la prochaine étape, c'est le retrait évidemment des glaciers qui est un phénomène qui est bien documenté. Et pour cela, nous partons en musique avec Nougaro et sa chanson « La neige ».
Oh, la neige, regarde la neige qui tombe. Cimetière enchanté, fait de légères tombes, elle tombe la neige. Silencieusement, de toute sa blancheur, d'un noir éblouissant, la neige, les yeux les mieux ouverts, sont encore des paupières. Et Dieu, pour le prouver, fait pleuvoir sa lumière glacée ardente cependant, cœur de braise tendu dans une main d'argent. La neige, elle vient de si haut, la chaste damoiselle, que sa forme voilée d'étoiles se constelle. Elle vient de si haut, cette sœur des sapins, cette bombe lactée que lancent les gamins. Elle vient de si haut, la liquide étincelle qu'au sommet de la terre, elle brille éternelle, brandissant son flambeau sur le pic et le roc, comme la liberté dans le port de New York. La neige meneuse de revue aux folies, Stalingrad, descend dans l'escalier des degrés centigrades, empanaché de plumes, négresse en négatif, elle dansait un ballet angélique explosif. Soldat givré, agrippé à son arme, œuf de sang congelé dans un cristal de larmes, elle danse la neige dans la nuit de Noël autour d'un tank brûlé qu'elle a pris pour chapelle. La neige tout de suite moisson, tout de suite hécatombe. Oh, regarde la neige.
Ce rêve blond s'estompe. Et oui, ce rêve blanc, ce rêve de neige commence à s'estomper dans les montagnes et plus particulièrement dans les Alpes françaises. Alors, faut savoir que les Alpes françaises, cette question environnementale, ça les touche, mais pas depuis si peu de temps en fait, hein, surtout depuis les années 90. Alors, les stations de ski des Hautes-Alpes ont fait un petit peu de lifting, hein, c'est-à-dire qu'ils se sont dit qu'il faut que ça fasse un petit peu plus traditionnel dans un premier temps. Donc on s'est mis à faire des petits vieux faux chalets tyroliens dans les Hautes-Alpes. Et puis on a changé les bardages, on a mis les pièces de charpente, on les a remis à l'ancienne. On a remis un peu de cuivre. Bon, bref, on a fait des façades pour montrer que on revenait à des petites stations familiales du début des années 20-30. Bon, le souci, c'est que tout ce petit lifting n'amène pas la neige. En effet, il y a un fond déficit d'enneigement, et ça depuis l'hiver 2006-2007. Et donc là, ça a pris véritablement un temps de révélation pour les stations de ski. On fait quoi? Et c'est la preuve pour en janvier-février 2016, c'est le même constat. Alors, les stations de ski, eh bien, elles ont commencé à s'intéresser à la question environnementale et puis petit à petit, eh bien, à changer certaines pratiques touristiques. Donc, par exemple, vous avez le premier forum international sur les stations qui s'engagent pour la planète à Avoriaz. À Courchevel, on a fait les ateliers de la Terre. Bref, on a essayé aussi d'amener un approvisionnement d'électricité en énergie renouvelable dans les stations des Hautes-Alpes, par exemple à Champs-Rousses, à Serre-Chevalier. On essaye de se donner des labels de certification environnementale au Menuire ou à Mont-Genèvre. Et puis, on essaye, les stations de ski essayent de réaliser des bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on essaye d'être un peu plus vert et un peu plus écolo. Enfin, ça n'amène pas la neige, mais en tout cas, on essaye de se redonner une image par rapport aux touristes. Alors, c'est vrai que ces démarches, on va dire, c'est un petit peu du verdissement, quoi. C'est du greenwashing. Ça n'amène pas la neige et ça ne va pas forcément amener les touristes. Et pourtant, il y a une volonté de vouloir se moderniser. Mais enfin, Philippe Bourdeau, en 2009, qui est un géographe, écrit dans un article qui s'appelle « Le tourisme montagnard au crible de la durabilité », qui tente de tendre vers une économie durable, eh bien, souligne que les stations de ski des Hautes-Alpes ont le syndrome du « aïe ». Alors « aïe », qu'est-ce que c'est ? C'est « automobile, immobilier, enneigement artificiel ». Et l'actualité nous le rappelle, en décembre, lorsqu'il n'y avait pas de neige, une station de ski a dépensé pratiquement 150 000 euros pour enneiger ses pistes. Alors, aïe, automobile, immobilier, enneigement, eh bien, commençons tout d'abord par se faire une petite virée du côté de la voiture. Il faut savoir que la voiture est le seul vecteur majeur de la massification du tourisme, c'est le seul moyen d'accès privilégié aux stations de ski. Parce qu'il faut savoir que 80% des nuitées dans les stations de ski sont des touristes, donc on y vient en voiture, et plus ça donne la liberté de mouvement, bien sûr. Donc ces axes routiers sont souvent saturés de façon saisonnière, il n'y a qu'à voir du côté de la 43 en direction après de Chambéry. La problématique et cette place de l'automobile, donc ça provoque un problème de circulation, des stationnements dans les stations de ski, bruit, pollution, etc. Donc c'est un véritable défi en été comme en hiver pour les stations de ski et les stations en montagne. Alors ensuite, le deuxième moteur de ce syndrome AI, eh bien c'est l'immobilier. En fait, il faut savoir qu'il y a 20 000 nouveaux lits qui sont construits chaque année dans les Alpes françaises. Donc une véritable manne qui est donnée aux agences immobilières, et donc ça a des effets pervers. Alors pourquoi ça ? Tout simplement, c'est une incitation fiscale. On a créé en 1995 ce qu'on appelle un dispositif de zone de revitalisation rurale. Et donc plus de la moitié des crédits ont été donnés entre 2000 et 2002. Et alors juste que vous compreniez bien, c'est simplement 6 communes de la vallée de la Maurienne entre 2000 et 2002 qui ont eu le plus d'incitation fiscale pour construire des nouveaux lits pour le tourisme, alors qu'il y a 20 000 communes qui étaient éligibles à ce projet. Donc, avant de recontinuer dans l'enneigement, je vous propose qu'on fasse une petite remontée mécanique avec le groupe français Mer Monte et la chanson « Monte ». Thank you. la dernière solution problème, on va dire, à la fois une solution pour les stations de ski et aussi un problème totalement écologique, c'est l'enneigement industriel. Donc c'est notre dernier E du AI. Bon, c'est un palliatif, hein, et comme tout palliatif, ça dure pas très longtemps. C'est on choisit donc l'enneigement industriel face au déficit de la neige naturelle, et c'est ce qui s'est encore passé en décembre 2015 dans certaines stations de ski des Hautes-Alpes. Donc c'est véritablement, en plus certes de donner de la neige qui n'est pas forcément de bonne qualité, mais ça a un impact véritablement environnemental et socio-économique. Hein. Donc ça c'est très clair, c'est les différents observateurs le mettent en avant. Donc l'artificialisation hein, de ces domaines skiables donc nécessite des différents travaux, il faut reprofiler les pistes, ça a donc une conséquence sur la biodiversité, vous surconsommez de l'énergie, vous surconsommez de l'eau. En plus, plus de 2500 mètres, le froid serait suffisant pour que l'enneigement soit touché, mais en fait ça fonctionne pas véritablement bien quoi. Donc en fait le rapport neige-pluie en fait fonctionnerait vraiment au-dessus des 2500-3000 mètres. En dessous, c'est pas rentable quoi. C'est pas rentable. Donc les stations d'hiver, elles se sont équipées hein, pour cette neige, ce qu'on appelle cette neige de culture. Et puis c'est les grands domaines skiables hein, qui ont les moyens, parce qu'il faut comprendre que il faut pour ça, il faut à peu près un investissement qui serait rentabilisé au bout de 30 ans quoi. Pour les stations de ski, donc c'est très difficile. Donc sur ces 10 dernières années, c'est 20 millions de mètres cubes d'eau hein, qui ont été prélevés chaque année hein, pour assurer l'enneigement des stations, 20 millions de mètres cubes d'eau hein, et juste pour 21% du domaine skiable des Alpes. Donc voilà, donc c'est un investissement qui est important. Et pourtant, pourtant, ces stations de ski, elles existent, et il va bien falloir qu'elles trouvent des solutions. Alors, certes, il y a la solution des communications un peu vertes. On va alors, je l'ai dit, hein, quelques publicités, de labellisation, et puis ce sont simplement des effets d'annonce. Et puis, il va falloir regarder les permanences et les changements pour ce tourisme dans les hautes montagnes. Mais avant, nous écoutons Tilacine et la musique, Mountains, sortie en 2015.
We'll be right back.
Le tourisme de ces hautes montagnes, et plus particulièrement les Alpes, hein, nous nous arrêterons toujours sur les Alpes. Alors, quelles sont ces permanences et ces changements? Alors, il faut savoir que ce tourisme des années 60-70, nous y reviendrons tout à l'heure avec un exemple bien précis dans une station de ski pas loin de Grenoble, eh bien, elle a laissé place à une vraie financiarisation du tourisme dans les Hautes-Alpes, c'est-à-dire un tourisme qui est ouvert essentiellement à l'international. La fin, il faut bien comprendre que aujourd'hui, il y a la fin. Les populations, les touristes ne se disent pas l'hiver la montagne, l'été eh bien la mer. Eh bien ça c'est fini ça aussi. On le voit bien. Il y a une étude qui a déjà été faite en 2001. Il y a le géographe El Sasser qui avait remis en cause cet équilibre géosaisonnier. Et ça, les montagnes commencent à en prendre conscience. C'est-à-dire, on ne fait pas l'hiver la montagne et le ski, et puis l'été la mer. Non, pas du tout. On voit même qu'il y a des flux de touristes qui vont vers l'hiver en mer. En effet, l'océan Atlantique comme la mer Méditerranée, les littoraux ont investi vers ce qu'on appelle des zones climatisées naturelles. En fait, ces flux hivernaux, vers les littoraux, ils vont pour une question de santé, une question de bien-être, les massages, etc. Et donc, les gens ne vont pas forcément en montagne, même si le gros reste encore un tourisme hivernal. Ensuite, ces effets du changement climatique pose la question d'une nouvelle activité récréative qui est déjà bien étoffée, hein, mais on s'intéresse aussi à de nouveaux espaces dans les montagnes, à de nouveaux publics, à de nouveaux temps, à un nouveau sens. En fait, la mythologie montagnarde des années 60-70 commence à laisser place, nous y reviendrons avec des exemples bien précis, à un tourisme de montagne en hiver qui est plus de l'ordre de l'aventure, de l'expression personnelle, avec de nouvelles sensations. On va faire des circuits itinérants, des nouveaux raids, des camps, cela en hiver comme en été. Donc, dans ces conditions, la sortie du tout-ski est envisageable et à envisager. Il faut aujourd'hui que les stations de ski comprennent que ça ne peut pas être le tout neige pour les années à venir. Alors, la difficulté, justement, c'est de trouver cette nouvelle stratégie. Et c'est là que c'est difficile pour les stations de ski. Donc, il y a des actions qui ont été entamées déjà dans certaines stations de ski, mais comment ? La problématique est simple, c'est comment concilier des activités économiques, les particularités locales, et puis surtout les qualités environnementales et pour éviter les effets avec le changement climatique. Et enfin, le dernier point, c'est la reconquête des jeunes générations qui ont abandonné petit à petit ce tourisme. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il devient de plus en plus excessif et très cher. Alors aujourd'hui, où on en est ? Nous allons partir sur plusieurs exemples. Mais avant, nous allons écouter Florent Marché qui nous relate ses petites vacances du côté de Courchevel dans son album qui était sorti en 2011.
Passer tes Noëls au chalet à Courchevel, bien trop loin de nos fenêtres. J'imaginais sans connaître, dans tes poumons de crevettes, l'odeur de la piste verte et tes parents peu de nantes dans les hôtels du néant. Quand tu passais tes étés, coquillages à l'île de Ré, si loin de nos soleils fades, j'imaginais tes balades, les chevaux. La plage qui se dessine et sous un pin parasol, tes parents dans le formol. Nous on restait là, on n'avait pas la chance. Ma parole, on n'avait pas les mêmes vacances. Tu nous faisais rêver. Thank you. dimanche, bien peigné, chemise blanche. Les promenades au parc, bagatelle en barque. Belle allure, les vitrines, l'amour, ça se devine. Et tes parents se tenant par le bout des sentiments. Mais un jour que t'es de trop, ta tristesse sous le métro, gardant la ligne de mire, ce que tu dois devenir. Dans les beaux quartiers tout neufs, qui de la poule ou de l'œuf, est subtil de se défendre, ou bien les larmes les rendre. Nous on restait là, on n'avait pas la chance. Ma parole, on n'avait pas les mêmes vacances. Tu nous faisais rêver, mais on ne savait pas que dans ce précaré, ton cœur n'y était pas.
Alors je vous propose qu'on s'arrête d'abord dans une station familiale du Beaufort, qui est la station familiale Arèche-Beaufort. En fait, ces petits portraits de station vont nous permettre de mieux comprendre cette démonstration que je vous ai fait depuis le début de l'émission. Alors, situons-nous un tout petit peu. Arèche-Beaufort, situation familiale qui est à 1080 mètres. Hein. C'est une station familiale qui a à peu près 10 000 lits touristiques. Bon, une architecture, elle, qui est traditionnelle, hein, qui n'a pas été retravaillée comme certaines autres stations. Une ambiance un petit peu rustique, dans un cadre très alpin. Alors, les activités, elles sont toujours ski de piste, randonnée, avec un petit ski. Ils ont créé une petite course de ski alpine qui est la plus importante des Alpes avec la Pyramenta. Alors, cette station, justement, de ski, elle mise sur des nouvelles activités pour au cas où la neige ou l'enneigement ne serait pas suffisant. Eh bien, elle va miser sur son contexte local, qui est le Beaufort, et donc tout autour du fromage. Eh bien, elle souhaite non pas que cette clientèle soit éparse, qu'elle ne revienne plus, mais elle veut une clientèle qui soit une clientèle d'habitués. Donc, elle ne va pas viser cette clientèle étrangère, russe ou anglaise, qu'on pourrait retrouver à Courchevel, critiquée dans la chanson de Florent Marché. Justement, elle veut plutôt une clientèle familiale, et bon nombre des éleveurs dans le Beaufortin, eh bien, le matin s'occupent des vaches et puis de la production du Beaufort, et l'après-midi, le soir, s'occupent des skieurs dans la montagne. Un autre exemple, le Val d'Isère. Donc on est au bout de la vallée savoyarde de la Tarentaise. Je me permets de faire un petit peu la géographie même si on est dans la région. Donc là, on est dans la plus grande concentration de stations géantes des Alpes. C'est le temple de l'or blanc des Alpes. Donc Val d'Isère, donc au fond de la vallée savoyarde de la Tarentaise, c'est 35 000 lits, un peu plus, enfin un petit peu moins, 33 500. Donc c'est une ville qui est complètement à la montagne. C'est très dense, c'est très compact. On est à 1800 mètres d'altitude. Allez, on a fait un petit lifting sur tous les immeubles qui sont habillés de bois et de pierre. Hein. Par contre, on retrouve toutes les boutiques de grandes marques de sportswear, c'est-à-dire Quicksilver, Oxbow, enfin toute la clique. Donc 65% de la clientèle est à l'étrangère. C'est par exemple une des stations les plus prisées des Britanniques. Donc pour les servir, il y a une véritable armée de saisonniers qui travaillent dans cette station de ski. Alors, c'est vrai que Val d'Isère ou comme Tignes, elles offrent un domaine immense, jusqu'à une très haute altitude. Mais le problème, c'est que, nous l'avons dit, l'argument ne suffit plus pour attirer la population. Ça ne suffit plus. Donc, Val d'Isère propose de nouvelles expériences. Et ils vont proposer ce qu'on appelle une expérience ski maximum, c'est-à-dire c'est du ski en altitude et en hors-piste. Et on passe par tout un mode de vie, ce qu'on appelle une espèce de freestyle, où ça nécessite une grosse demande d'équipement. Alors, qui dit expérience dit forcément équipement, donc ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est un équipement qui est coûteux, c'est coûteux déjà pour le touriste, enfin c'est coûteux pour la station. Pourquoi ? Parce que pour créer une expérience propre, la station de ski va investir dans des pistes un peu spectaculaires, avec des bosses, avec des half-pipes, des kickers, donc tous ces mots de vocabulaire un petit peu barbares et permettent de donner une expérience un petit peu particulière aux touristes. Donc là, en plus, il faut former aussi les saisonniers qui vont travailler dans cette station de ski. Alors, c'est important, tous les circuits faciles, toutes les pistes de ski dites normales, elles ne sont plus prisées. Donc il faut trouver un moyen de reconversion pour ces stations de ski. Ensuite, ces touristes, il faut pas qu'ils partent, donc on investit évidemment dans l'animation, et donc c'est là même en plein jour, la station ski se transforme en véritable boîte de nuit. On fait venir des DJ, on fait venir des animateurs qui sont tous bilingues, pour les Anglais comme pour les Russes. On met des scènes centrales dans la rue, et puis ça danse, ça picole toute la journée. Et puis ensuite, on met en place une espèce de remontée mécanique qu'on appelle le funival, et qui permet d'aller dans tous ces endroits. Donc et puis à vous rajouter aussi un centre aqualudique qu'on a mis à Val d'Isère. Voilà, donc tout ça pour dire que pour vivre, ces stations de ski ont besoin de se véritablement reconvertir et de trouver une nouvelle stratégie. Bon alors, moi je vous propose qu'on écoute Baden Baden et qu'on fasse une petite descente avec la chanson La Descente qui est sortie en 2012.
Descente est douce, je sais, je sens. deux ensemble ignorent. D'ivresse et de sagesse, on vivrait mieux.
Terminons notre portrait de cette station de ski. Alors très rapidement, je voudrais vous parler d'une station de ski non loin de Grenoble, qui est Saint-Nizier, qui est dans la commune de Saint-Nizier du Moucherotte, et elle est véritablement révélateur, eh bien, de la crise que subissent aujourd'hui les montagnes en France. Alors rapidement, hein, très intéressant, on est donc dans le massif qui est donc Saint-Nizier du Moucherotte. On n'est pas loin de Parisé, enfin c'est Ciné-Parisé. Alors c'est une station de ski qui a été créée dans les années 30. Et donc elle était non loin de Grenoble. Alors en fait c'est un petit hameau au début de éleveurs et de forestiers. Alors c'est vraiment très intéressant cette station parce qu'elle retrace véritablement toute l'histoire de la montagne et du tourisme en montagne. Donc c'est un petit hameau au départ d'éleveurs et de forestiers. Et puis très rapidement les Grenoblois se dirigeaient là vers cet espace parce que il y avait tout ce qui était une station d'altitude où le climat était plutôt agréable. Donc très rapidement on construit dans les années 20 une gare, puis deux hôtels, et puis Saint-Nizier devient très rapidement une station de séjour et de cure pour les enfants avec des problèmes de santé dans les années 30. Vous avez l'air pur des montagnes. À cette époque, si le ski n'est pas encore de mise, ça permet, c'est un facteur de santé, l'air pur des montagnes. Bon, très rapidement, on a, avant que les antibiotiques arrivent, dans les années 50, c'est très intéressant, eh bien, Saint-Nizier se spécialise dans le tourisme de santé, on va dire. Et puis bon, la guerre va mettre fin à cette parenthèse de climatisme. Et puis, l'après-guerre, le village détruit et reconstruit. On continue encore à travailler autour de la santé. Il faut attendre donc les années 50 pour qu'apparaissent dans ce village eh bien, des hôtels modernes. Et puis que petit à petit, ça se mue dans une micro-station familiale de sports d'hiver de moyenne altitude. Alors en 56, on met une télécabine qui va desservir l'hôtel de l'Ermitage, hein, 3 étoiles, hein, 25 chambres. Qui est situé à 800 mètres plus haut, à proximité du sommet de Moucherotte. Et puis, on ouvre une piste de ski pour les relier. Dans les années 60, on fait 4 téléskis hein, qui sont installés. Le parc hôtelier, lui, bah, s'agrandit, en effet, avec l'inauguration de l'hôtel Concorde. Puis, on va construire un tremplin qui sera utilisé pour les Jeux Olympiques de Grenoble en 68. Ça donne à cette petite station sa touche finale. Et puis par la suite le village est remodelé, on a des voies d'accès qui sont considérablement au village améliorées entre Grenoble et ce village. Donc on compte quand même dans les années 70 40 km de pistes de ski qui sont tracées dans la forêt. En plus du ski alpin, on a donc 40 km de pistes de ski de fond. Donc, dans les années 70, Saint-Nizier, ça représente 300 lits qui sont répartis entre 4 hôtels. Hein, donc voilà. Donc, un tout petit peu encore pour les enfants, pour le séjour climatique. Et puis, ça reste une station de tourisme familial. Et puis, très connue, puisque l'hôtel L'Ermitage verra venir jouer Brigitte Bardot en 1961, dans le film La Bride sur le coup. Bon, donc là, tout va bien pour cette station de ski. Et puis, finalement, eh bien... tout se commence à se casser la figure dès les années 80. Très rapidement, les pistes, toutes les structures sont abandonnées parce que pas de reconversion. et pas de modernisation de cette de ces stations. Donc dès les années 80, les deux sur les quatre téléskis sont abandonnés malgré quelques effets d'annonce. Et puis fin des années 90, faute de clients, tout est pratiquement abandonné. Alors que devient ce village ? C'est là que c'est intéressant. Eh bien le village, et c'est là qu'il va falloir voir l'avenir de certaines stations de ski vont tendre certainement vers là, eh bien c'est que ce village n'est pas abandonné pour autant. Toutes les friches qu'il y avait, l'hôtel de l'Ermitage, les télécabines, eh bien tout ça se reconvertit dans une ville résidentielle de la ville de Grenoble, tout simplement. En fait, les hébergements sont certes fermés, mais on va les reconvertir, eh bien dans différents appartements et maisons pour la population un peu plus aisée de Grenoble qui monte à la montagne les week-ends. Donc en fait, aujourd'hui, il reste quelques spots pour faire du ski de fond, mais guère plus, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que cherchent en fait les Grenoblois ? Eh bien, c'est le calme, et puis évidemment la vue, et puis cette proximité. C'est-à-dire que les Grenoblois ne veulent plus de la pollution de la ville de Grenoble, ça leur fait peur, et donc ils montent vers Saint-Nizier. Aujourd'hui, Saint-Nizier n'est plus une station de ski, mais simplement un lieu de résidence secondaire. Voilà, donc voilà un exemple de reconversion d'une station de ski de moyenne montagne qui, depuis les années 2000, a décidé de trouver eh bien, une solution pour pallier soit à un tourisme qui n'est lui plus d'actualité, qui ne s'est pas modernisé, qui ne s'est pas reconverti, et aussi d'un enneigement qui s'est fait de plus en plus rare. Cette émission a été préparée avec l'aide de trois articles importants. Le premier, c'est Philippe Bourdeau qui a écrit en 2009 « De l'après-ski et l'après-tourisme, une figure de transition pour les Alpes ». Masson Marie-Hélène et Vareto André qui ont écrit « Le patrimoine naturel de la montagne » qui est un rapport qui a été donné au Sénat en 2014 sur l'avenir de la montagne et plus particulièrement des Alpes. Et enfin, « Du tourisme à l'après-tourisme, le tournant d'une station de moyenne montagne » qui est Saint-Nizier du Moucherotte près de Grenoble. Nous terminons cette émission avec une chanson d'actualité, celle de Mio Sec, La Neige, sortie en 2011 dans l'album Brûle. Au revoir.
Cette année, la neige devrait tomber plus tôt. On la voit déjà au sommet des cimes. Cette nuit, des frissons ont parcouru ta peau et dans mon cœur tant d'adrénaline. Qu'on a pris peur de se lever trop tôt et de voir que plus rien n'est sublime. On a pourtant touché que nos peaux. Ce n'est d'habitude qu'une simple routine. Je crois que je suis l'homme qu'il te faut. Il ne faudrait pas qu'un jour je t'assassine. Laisse-moi encore toucher ta peau. Je ne veux pas que tu sois ma prochaine victime. J'ai monté cette nuit si haut qu'on a pu voir le fond de l'abîme. On est monté cette nuit si haut qu'on a pu voir le fond de l'abîme. Cela nous a paru soudain si beau. Cette année, la neige devrait tomber plus tôt. Cette nuit, il ne pleut pas, il bruine. Je me suis levé pour tirer les rideaux, pour pour ne plus redescendre au fond de la mine. Cette année, la neige devrait tomber plus tôt. On la voit déjà au sommet des cimes. Et monter cette nuit si haut qu'on a pu voir le fond de l'abîme. Et monter cette nuit si haut qu'on a pu voir le fond de l'abîme. Cela nous a paru soudain si beau.